Chers frères et sœurs, donc nous sommes le troisième dimanche de l'Avent, comme vous le savez, que la liturgie appelle le dimanche de Gaudete. Premier mot de cet introït grégorien que nous n'avons pas chanté, mais que nous chantons dans notre cœur, dans notre tête, tiré de saint Paul qui nous dit « Réjouissez-vous, soyez dans la joie, car le Seigneur est proche. » C'est le dimanche de la joie, même si ce n'est pas toujours très perceptible, dans la mesure où nous avons souvent des masques qui cachent la joie qui nous habite, à cause de la proximité du Seigneur. Car nous sommes désormais tournés résolument vers ce premier avènement du Christ dans la chair et dans l'humilité de la crèche. Et c'est Jean-Baptiste qui nous prépare immédiatement à l'avènement de celui que nous saluerons comme le Messie annoncé par les prophètes. Jean-Baptiste, qui n'est pas la lumière, comme nous dit saint Jean dans son prologue, mais qui est venu pour rendre témoignage à la lumière, cette lumière qu'est Jésus, le soleil levant, le soleil de justice. Mais avec Jean-Baptiste, nous voyons bien que la lumière est proche, elle commence à déchirer l'obscurité. On le voit aux couleurs liturgiques, n'est-ce pas, en ce dimanche de Gaudete. Le violet de l'Avent qui symbolise l'obscurité, les ténèbres, car pendant le temps de l'Avent, nous accompagnons le peuple hébreu qui marche dans les ténèbres, dans l'attente de l'avènement de la lumière, dans le Messie annoncé, entretenu dans l'espérance par les promesses de Dieu portées par les prophètes. Et voilà que l'obscurité se déchire un peu, vous savez, comme au matin d'une journée ensoleillée, lorsqu'on le regarde au lever du soleil, l'horizon, on le voit qui se teinte d'une couleur rose. C'est l'aurore qui précède l'avènement du soleil qui inondera le jour de toute sa clarté. C'est un jour aussi où les fleurs font un peu leur réapparition dans le désert. C'est aussi le jour où l'orgue fait entendre à nouveau sa voix pour elle-même. Quand pendant le temps de l'Avent, temps de pénitence, comme le temps du carême, l'orgue est réservé à soutenir et accompagner le chant. Mais là, nous avons entendu la voix de cet orgue qui était remise au ton, et j'en profite pour remercier M. Philippe Guilmard, qui fut organiste titulaire de Saint-Joseph des Épinettes à Paris, qui actuellement est organiste titulaire de Saint-Vincent d'Andaille, et qui est aussi facteur d'orgue, et qui a relevé cet orgue et remise au ton, et qui le fait sonner pour nous aujourd'hui, pour notre joie, pour accompagner notre joie, celle du Seigneur qui vient, celle du Seigneur qui est proche désormais dans le mystère de Noël que nous nous apprêtons à célébrer. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi la joie d'entourer Fabien Damet et Louis Le Grel, deux séminaristes du séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, qui vont être institués acolytes, après avoir été institué lecteur, en vue du sacerdoce. L'étape du diaconat et du sacerdoce se rapproche. À travers ces deux ministères, comme vous le savez bien, le lectorat et l'acolytat, ils se disposent, ils se préparent humblement à accomplir leur ministère apostolique qui repose depuis les apôtres sur la prédication de la parole et sur le service de la prière liturgique en particulier. L'acolyte, c'est celui qui peut présider la prière commune, c'est celui qui se rapproche de l'autel pour servir le sacrement de l'Eucharistie, qui lui sera donné, s'il plaît à Dieu, de célébrer in persona Christi lorsqu'il sera ordonné prêtre de Jésus-Christ. Il devient par là même ministre extraordinaire de la communion. Il peut donner la communion aux malades, il peut donner la communion si c'est nécessaire, au cours d'une assemblée liturgique nombreuse. Et puis c'est Jean-Baptiste, aujourd'hui, qui de manière très significative est le modèle de ce ministère de l'acolytat, comme il fut celui du ministère de du lectorat. Jean-Baptiste, ce géant parmi les prophètes, dont Jésus dira qu'il est le plus grand des enfants nés de la femme, le plus grand des prophètes, celui qui vient annoncer immédiatement, témoigner devant les hommes de l'avènement du Christ, le Messie tant attendu. Mais en même temps, comme dira Jésus, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Il reste au seuil du royaume des cieux. Très significatif que c'est au-delà du Jourdain, en ce lieu que l'on appelle Bétabara, lieu du passage, où le peuple hébreu a passé le Jourdain à pied sec pour entrer dans la terre promise, qu'il se situe pour préparer les chemins du Seigneur et administrer un baptême de pénitence pour confesser ses péchés. Il se tient au seuil. Il n'entrera pas de son vivant dans la terre promise. Il est évidemment dans la gloire du royaume des cieux maintenant, au-delà de la mort. Mais il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Très significatif aussi que les Juifs de Jérusalem et de toute la Judée viennent se presser auprès de lui, de l'autre côté du Jourdain, pour passer à nouveau le Jourdain, pour rentrer à Jérusalem, qui est le symbole évidemment de leur conversion, de la conversion à laquelle Jean-Baptiste appelle le peuple de la première alliance pour accueillir celui qui vient et qui nous appelle encore aujourd'hui pour accueillir Jésus d'une manière nouvelle dans notre vie. C'est un phénomène, Jean-Baptiste. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, il n'y a plus eu de prophète. Et voilà qu'un prophète se lève dans le désert, au bord du Jourdain, qui parle avec autorité. Les Juifs se pressent auprès de lui. Il devient le directeur spirituel de tous, quelle que soit leur corporation. Il inquiète le Sanhédrin, qui dépêche quelques-uns de leurs membres pour faire une enquête. Mais qui est-il, ce prophète? Pour qui se prend-il? Serait-il le Messie? Voilà qu'il s'approche de lui, en effet, en lui disant « Qui es-tu ?» Et l'humilité de Jean-Baptiste, qui s'exprime de manière éclatante. « Il ne n'y a pas, » dit saint Jean. Il confessa même « Je ne suis pas le Christ. » Celui dont l'influence était tellement déterminante sur le peuple, qui aurait pu accaparer l'attention des hommes et se prendre même pour le Messie. « Je ne suis pas le Christ. » Alors es-tu Élie? Élie que le prophète Malachie a annoncé qu'il reviendrait au moment du jour du Seigneur, du jour de Yahvé, pour ramener les cœurs des pères vers les fils et des fils vers les pères. « Je ne le suis pas. » Et pourtant, Jésus dira lui-même, quand Jean-Baptiste, Élie, est en effet revenu, mais il s'en sent tellement indigne quant à lui. « Es-tu le prophète annoncé ?» Comme Isaïe, dans le chapitre 61 que nous venons d'entendre, à un moment de grand trouble pour le peuple d'Israël, qui leur annonce, alors qu'il n'y a plus de roi assis sur le trône de David, que le Messie viendra comme un prophète, qui aura reçu l'onction du Seigneur pour annoncer l'Évangile aux pauvres, annoncer une année de bienfait pour le Seigneur. Je ne le suis pas. Alors qui es-tu pour que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu sur toi-même? Et voilà la révélation de Baptiste. Moi, je ne suis que la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe, la voix qu'Isaïe avait annoncée de manière tellement anonyme, et lui-même tient à rester dans cet anonymat, la voix, comme dit saint Augustin dans son magnifique homélie que nous besoin de ce véhicule pour atteindre le cœur de l'homme, mais une fois que la parole a atteint mon cœur, le son s'évanouit, la voix s'efface et disparaît. Comme Jean-Baptiste le dira lui-même, après avoir témoigné de Jésus et vu toutes ces foules qui venaient à lui se retourner vers Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. L'effacement de la voix, l'effacement de celui qui doit porter la parole, c'est important pour ces nouveaux acolytes, ces lecteurs d'il y a un an, qui s'apprêtent à être la voix qui criera dans les déserts intérieurs de notre monde d'aujourd'hui, si troublé, si confus. Cette voix qui doit retentir, mais qui n'est que la voix qui s'efface devant la parole. Il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Dans quelle humilité le Seigneur veut voir ses ministres, ses lecteurs, ses acolytes, ses diacres, ses prêtres, ses évêques. Et pourtant, Jésus a besoin de la voix pour que la parole atteigne le cœur des hommes et les convertisse. Nous ne pouvons pas nous dérober à notre mission. Jean-Baptiste ne se dérobe pas à sa mission. Il s'efface devant le Christ, mais il prête sa voix à la parole. Elle est tellement importante que sans Jean-Baptiste, le précurseur, le Christ, le Messie, n'aurait pas été annoncé aux hommes. Lourde charge que la prédication de la parole, comme dit saint Grégoire le Grand dans sa règle pastorale, le pasteur ne doit pas risquer de laisser les hommes dans l'erreur par un silence excessif. Il ne doit pas perdre courage par crainte de perdre la faveur des hommes, de taire là où est le bien qu'il doit proclamer, crier même, comme le Baptiste, cette voix qui crie dans le désert. Convertissez-vous à la parole, préparez dans votre cœur les chemins du Seigneur. Sinon, il risquerait d'être admonesté par le prophète Isaïe, chien muet, incapable d'aboyer. Mais en même temps, il doit accepter de perdre sa vie pour la parole. Et ô combien plus pour l'Eucharistie. Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète annoncé, pourquoi baptises-tu ? Jésus dit, et Jean-Baptiste répond, « Quant à moi, je baptise dans l'eau, mais se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. Et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale, besogne réservée aux esclaves d'un hôte de marque pour ces hôtes auxquels il donne l'hospitalité. Après le voyage, il lui défaisait la sandale pour pouvoir lui laver les pieds, comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples au moment même où il instituait l'Eucharistie. Vous êtes appelés à être des serviteurs et même des esclaves, pas dignes d'être des esclaves pour le Christ. Vous qui allez approcher celui que tant ne connaissent pas et tant ne reconnaissent pas, qui est au milieu de nous, sous les apparences pauvres et dérisoires, du pain et du vin consacré, il est là, dans l'Eucharistie, et nous ne le connaissons pas, et nous ne le reconnaissons pas. Vous qui allez approcher de si près le corps du Christ dans l'Eucharistie pour le servir, avant de célébrer l'Eucharistie dans la personne du Christ, vous n'êtes pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Avec quel respect, empreint d'adoration, vous aurez à toucher le corps du Christ, à donner le corps du Christ, à adorer le corps du Christ présent dans l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, que vous communiez sur la langue ou que vous communiez dans la main, avec quel respect vous devez accueillir, non pas comme un dû, mais comme un don ineffable. le corps du Christ, comment vous exprimer extérieurement pour dire les sentiments qui vous animent dans votre cœur, votre adoration, votre vénération pour le corps du Christ. Le peuple des fidèles entre dans ce respect, cette adoration, à la mesure du respect et de l'adoration des ministres de l'Eucharistie. Dites-moi comment vous traitez le corps du Christ et je vous dirai comment le peuple des fidèles accueille ce don immense et inouï du corps du Christ. Comment pourrions-nous approcher autrement que par l'humilité ce grand mystère où le Christ s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix pour ressusciter, car c'est cela l'Eucharistie. Je baptise dans l'eau, disait Jean-Baptiste, baptême dans le Jourdain qui était comme la préfiguration, l'annonce prophétique de la mort et de la résurrection du Christ. Car il ne s'agit plus seulement de traverser la mer Rouge à pied sec, il ne s'agit plus seulement de traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, mais il faut traverser la mort pour entrer dans la vie, chers frères et sœurs. Lorsque nous allons communier, nous pensons à tout ce qui nous met dans la mort, toutes les épreuves difficiles à supporter, les montagnes insurmontables de notre vie, les énigmes insolubles de notre existence personnelle, communautaire. Et nous savons que le Christ que nous recevons dans la foi est capable de traverser la mort pour nous donner la vie. C'est de cela que vous serez appelés, Louis et Fabien, à être les ministres et les prophètes, la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il vient pour nous sauver.